que tu peux me mettre du son? Petit bazar, yo.
Bazar, Radio Canu.
Ou ce genre de choses. Le petit bazar. Le petit bazar.
Et le magnétisme.
Petit
Coucou.
Bazar, mais gros bordel.
Petit Coucou. Bazar, mais gros bordel.
Antenne.
Salut.
Yo.
Coucou.
Ça, je viens de péter un truc sur la tablette.
Voilà, ça commence, ça y est. On a eu un enchaînement assez express pour une fois. Bah, merci à Anas de l'ère du jeu qui vient de finir. Et vous écoutez Le Petit Bazar, c'est la 78e aujourd'hui.
Eh oui, 78e épisode.
Et moi c'est Nico, il y a Julien à côté
oui,
de moi.
Salut.
Et puis Max à la technique qui est en train de tout gérer en express. Pour une fois, parce que de temps en temps on aime bien changer les rôles, c'est moi qui va passer une nouveauté. Bon, c'est nouveauté comme toujours, c'est tout un peu relatif. Ça date de décembre 2015.
Donc, ah bah d'accord.
C'est sur 2015, tu vois.
Ah mais putain.
Mais il y a un lien avec l'actualité, pas l'actualité locale, mais l'actualité loin d'ici, parce que du 6 au 9 février 2016, donc d'aujourd'hui jusqu'à mardi, il y a le carnaval à Barranquilla en Colombie. Donc carnaval qui est nettement moins connu à l'international par rapport au carnaval de Rio. Mais en Colombie, c'est vraiment un gros carnaval qui a des modalités un peu différentes du carnaval de Rio, qui a probablement les mêmes origines. Mais voilà, c'est vraiment l'occasion là-bas de faire la fête. Tout le monde se déguise. Enfin, c'est un carnaval beaucoup plus populaire aussi que celui de Rio. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la notion que tout le monde se déguise un peu comme il veut, n'importe comment, et descend dans la rue et fait la fête en musique et en dansant, en buvant, etc. C'est moins le défilé officiel qui existe aussi, mais il y a un côté plus populaire qui m'attire bien, même si je n'ai fait ni l'un ni l'autre pour l'instant, je le confesse. Et donc, dans ce cadre, Sistema Solar, un groupe colombien que j'adore, que vous avez déjà pu entendre dans l'émission spéciale que j'avais fait sur la Colombie il y a quelques mois, peut-être même un an. Donc, groupe éminent colombien qui existe depuis 2008, qui a sorti uniquement 2 albums jusqu'à maintenant, et qui, dans la lignée des groupes inspiré un peu par le DJ britannique Sidestepper. Donc il y a un DJ anglais qui est allé en Colombie en 92 et qui est tombé amoureux de la Colombie et qui a fait plein de mélanges entre la musique occidentale, entre guillemets, mais plus électronique, quoi, drum and bass, techno, etc., avec la musique locale colombienne, donc la cumbia et d'autres influences. Sistema Solar, dans ce cadre, comme beaucoup d'autres groupes colombiens à l'heure actuelle, comme Bomba Estéreo, comme un peu Chokip Town aussi, comme Palenque Soul Tribe, qui est un groupe américain qui s'est aussi inspiré de la musique colombienne, ils mélangent la musique électronique à la musique traditionnelle colombienne. Et donc, en décembre 2015, ils ont sorti un single qui s'appelle El Huere. Et c'est un single beaucoup plus presque reggaeton, j'ai lu un peu dans son influence, mais du bon reggaeton, Maxime,
ouais,
je te préviens.
Genre du reggaeton dans le petit bazar, tu vois.
Parce que c'est Sistema Solar quand même, et en plus il y a une l'image qui va avec le single est quand même super marrante, je vous invite à aller voir. C'est une sorte d'amérindien, mais bon, c'est pas vraiment, qui a l'air complètement fou, qui a des espèces de plumes sur les bras et un slip avec la tête du Père Noël dessus. Donc c'est parce que c'était en décembre, hein, je précise encore une fois. Et donc c'est vraiment un single qui avait pour but de fêter les fêtes de fin d'année et le carnaval de Barranquilla.
Qu'est-ce qu'il y a, Maxime ?
Non, je crois que l'émission d'avant oublie sa clé.
Ah, ouais, bah on leur donnera juste après avoir passé le titre. Bah tu peux même le lancer maintenant. Donc c'est El Huere de Sistema Solar et ça va vous. Et voilà, c'était Sistema Solar avec El Huere. D'ailleurs, on s'excuse au début, les basses avaient été coupées
si
par Andou, qui a eu, dû y avoir un petit moment où les basses sont revenues parce que c'est quand même dommage.
On en a eu de la platine du coup, Max.
Et bah, pour l'instant, j'arrive pas à la faire marcher. Donc
ok, on lance Kraftwerk du coup.
Ouais, mais on peut peut-être déjà expliquer le thème, non ?
Enfin,
si tu veux, on commence cash. Hein, mais donc ça, c'était la nouveauté du petit bazar, c'était Sistema Solar et El Huere. Et maintenant, on démarre notre thème.
Oui, alors c'est la... Ouais, je peux ?
C'est donc mais vas-y, je t'en prie, mon cher ami.
C'est la 78e émission du petit bazar. Alors la semaine dernière, en fait, on s'est rendu compte un peu tard que c'était la 77e. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière comme thème déjà ? Ah oui, c'était le cadavre exquis.
C'était l'émission Petit Bazar Gros Bordel.
Voilà, et du coup, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est la 70e et qu'on aurait pu faire une émission, ce qu'on fait pas souvent, spéciale année, on aurait pu faire une spéciale 1977. Et finalement, on l'a pas fait parce que, bon, voilà, on a décidé de faire autre chose, quoi, tout simplement. Mais du coup, là, on s'est dit, 1978, ça peut être cool aussi parce que 77, c'était donc l'année du punk. Et 78, il y a quand même quelques.
C'était l'année du rien.
Aussi, non, c'est vrai que bon, c'était moins emblématique, voilà, d'un point de vue histoire de la musique, quoi. Mais il y a quand même des trucs super qui sont sortis, donc on a décidé de faire un petit
comme
focus.
Toutes les années, au final.
Désolé, je suis un peu distrait parce qu'il se passe pas mal de choses là en studio. On a un peu de mal à faire fonctionner un peu la machine là. Du coup, on lance quoi là?
Bah, au Kraftwerk.
On part sur Kraftwerk d'abord.
Sauf okay, si Max arrive à.
Ouais, mais bon, les gars, c'est moi qui présente le morceau et je suis en train de régler la platine. Mais bon, c'est pas grave. Oui, Kraftwerk. Oui, bon.
Bah, on lance le morceau et puis tu retestes la platine.
En plus, j'entends rien, j'ai aucun retour casque, c'est pas grave. Donc, 78 Kraftwerk sort leur 7ème album. Tu m'entends pas non plus ?
Si,
ah,
moi je t'entends.
Okay.
Hein.
Non, moi c'est mon casque.
Donc, 7ème album qui s'appelle Die Mensch Machine. La particularité du disque, c'est qu'il est sorti dans deux versions, une version allemande et une version anglaise qui s'appelle The Man Machine. Étant donné que toutes les voix sont contrôlées par ordinateur, modifiées via vocodeur et tout un tas de bidules synthétiques, et qu'il y a très peu de paroles sur les chansons. Ils ont décidé de faire deux versions du disque où les trois chansons avec des paroles étaient juste traduites en anglais. Là, je vais vous passer la version originale, donc la version allemande, et on va s'écouter donc le single Das Modell, donc sorti en 78 sur le 7ème album de Kraftwerk.
Et voilà, c'était donc la pop glacée et synthétique de Kraftwerk.
C'est vraiment robotique.
Donc, groupe phare de l'électronique allemande qui a commencé en faisant du krautrock comme tout le monde, hein, puisque... Dans les...
Comme tout le monde.
Non, mais comme tout le monde en Allemagne au début des années 70, si tu préfères. Parce que dans le groupe, en fait, sont passés la plupart des musiciens qui ont joué ensuite avec Kahn ou avec Neu. C'est beaucoup de circulation intergroupe à cette époque-là. En 78, quand ils sortent ce disque, ce sont des superstars mondiales. Qu'est-ce que tu me fais comme ça?
Juste pour que tu montes un peu les micros, j'ai l'impression que c'est en.
Moi, je m'entends un peu très, très fort dans le.
Ouais, main, donc ouais mais je crois que ton casque, il est fort, non?
Eh ben, dis donc. C'est la foule.
Donc, bref, j'étais en train de dire. Mieux, en 78, ce sont des superstars mondiales parce que depuis 74 et leur album Autobahn, ils ont eu un énorme succès, notamment aux États-Unis. Pour rappel, Autobahn, c'est quand même un disque dont la face A est entièrement occupée par un morceau de 24 minutes de musique répétitive synthétique. Donc c'est un peu étonnant que ce genre de musique-là soit devenu aussi commercial. Bon, les années 70, c'était pas à une surprise près. Et donc voilà, ils sortent cet album en 78 qui est considéré comme un de leurs tout meilleurs et qui plus ou moins invente ce qui deviendra la synth pop, reprise ensuite par Depeche Mode dans la période New Wave. Voilà, voilà.
Voilà, et donc maintenant que tout fonctionne en studio a priori, on va pouvoir continuer. Alors du coup, alors je vous parlais tout à l'heure donc de 77 comme l'année du punk, mais 78 n'était pas en reste, puisque on va parler maintenant d'un groupe qui s'appelle The Jam. Alors The Jam, en fait, c'est un groupe qu'on a tendance souvent à affilier, et probablement à juste titre, hein, au mouvement punk en priorité, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un groupe qui est un petit peu au croisement entre l'esthétique un peu mode et l'esthétique punk. Alors le mode, en fait, c'était tous ces gamins un peu chicots des années fin des années 50, années 60 au Royaume-Uni, voilà, qui aimait les Kings, les Small Faces, les Who, c'est ce genre de groupe comme ça qui mélangeait rock et pop avec des influences aussi un peu soul. Et donc du coup les Jams a un petit peu initié ce qu'on a appelé un revival mode à la fin des années 70, et donc ils se placent un petit peu au croisement entre voilà ces deux esthétiques, entre énergie, colère punk et puis look et influence un peu plus mode, avec notamment des chansons qui par rapport à d'autres groupes de punk de l'époque sont beaucoup plus dépendante, tributaire de grands moments mélodiques. C'est le cas de la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, vous le verrez. Et là, on va parler donc en 78, ils ont sorti leur troisième album qui s'appelait All Mud Cons, qui est probablement le plus emblématique du groupe. Et donc oui, c'est un peu l'album qui les a lancés, avec quelques singles qui ont eu un succès assez retentissant, comme Down at the Tube Station at Midnight par exemple. C'est aussi donc l'album qui va lancer un petit peu la carrière de Paul Weller, qui ensuite continuera avec d'autres groupes comme Style Council, ou puis ensuite à partir des 90 en solo, pour devenir un des chanteurs les plus emblématiques de ce mouvement-là au Royaume-Uni, jusqu'à encore maintenant, puisqu'il a sorti un disque l'année dernière, il y a deux ans je crois, qu'il était encore vraiment pas mal, et puis il tournait. Donc voilà quoi. Et là on va passer une chanson qui va un petit peu bien vous situer l'esthétique des Jams, entre justement ce côté energy punk et puis aussi un petit peu annonçateur de la new wave, avec vous allez voir une basse omniprésente, ce côté vraiment pop avec voilà des belles mélodies assez claires, et puis des chœurs aussi derrière qui font vraiment pour le coup esthétique plus années 60. La chanson s'appelle It's Too Bad et elle est aux antipodes un petit peu de ce qu'on attendrait d'une chanson punk, puisque c'est une chanson d'amour, c'est une chanson sur une rupture. Et donc voilà, c'est sur le troisième album des Jams, c'est All Mud Cons, c'est une tranche de 1978 qui est le thème du jour dans l'émission. Avenue, I walk on behind you. Your back is turned and your eyes are closed, girl. cogner le genou, tout va bien. C'était donc les Jam avec It's Too Bad, extrait de leur troisième album All Modcon, sorti donc, puisque c'est le thème du jour dans le petit bazar sur 102.2 Radio Canu, en 1978. Pourquoi cette année? Parce que c'est la 78e émission
tout simplement
du petit bazar, voilà. Oui, on est encore allé chercher très loin pour le thème. Et donc, bah écoutez, apparemment c'est moi qui enchaîne, donc j'enchaîne. Et on va toujours parler de punk, parce que autant Max et Nico vont pas mal varier les genres aujourd'hui, autant moi je vais être un peu monomaniaque, parce que je voulais faire, sur 77 j'aurais passé que du punk, donc je me suis dit sur 78 je vais passer plus ou moins que du punk aussi. Mais là, on va un peu se dépayser quand même, puisque on a tendance à associer le punk plus, on va dire, au Royaume-Uni, ouais, voire aux États-Unis, mais moins à l'Australie. Et pourtant, il y a un des groupes les plus, pour moi, les plus influents de l'histoire du punk, même si en fait l'Australie n'a jamais été très friande de punk. Donc du coup, là-bas, le groupe est un petit peu resté confidentiel, mais il a connu un certain succès justement dans les airs un petit peu privilégiés du punk à l'époque. Et en plus, c'était un groupe assez précurseur, puisqu'ils ont commencé en 74. Il s'agit du trio australien, donc des Saints, donc de Saints, qui était un trio vraiment mythique de punk, qui donc a commencé
en français, on dirait les Saints, quoi.
Les Saints, quoi. Ouais. Voilà.
Saints, S-A-I-N-T-S, pour éviter toute ambiguïté.
Voilà. Hein, soyons clairs. Et donc, quoique ça m'aurait pas surpris non plus qu'ils s'appellent comme ça aussi. Et donc, voilà, c'est un groupe qui est vraiment assez génial. Moi, c'est mon groupe australien préféré de tous les temps, voilà, je le dis.
Oh.
De quoi?
C'est pas INXS?
Ah si, mince. Lol.
Blasphème.
Bon bref, on va passer sur cette remarque douteuse. Et donc les Saints, alors ils ont commencé en 74,
quoi,
mais leur premier album est sorti en 77, qui s'appelait I'm Stranded. Et c'est un premier disque, tout ce qu'on peut attendre du punk, c'est-à-dire assez basique, assez furieux. Et pourtant le premier morceau de leur second album, qui sort donc en 1978, qui s'appelle Eternally Yours, il annonce une couleur totalement différente dès le premier morceau, celui qu'on va passer, qui s'appelle Know Your Product, parce qu'on entend en fait une section de cuivre, ce qui est assez rare, vous le reconnaîtrez quand on parle de punk. Et donc en fait c'est une manière pour les Saints d'assumer leur héritage, hein, une influence qu'ils ont toujours considérée comme primordiale, de la soul et du R&B en fait sur leur punk. Et donc du coup il y a une espèce de matinage d'influence comme ça entre voilà le côté très voilà in your face de la rythmique punk, et puis bon là le chant vraiment punk aussi, quoi. Et puis à côté la section rythmique qui voilà bah, tabasse avec des cuivres derrière et tout, c'est assez original. C'est un groupe voilà qui a imposé sa patte un petit peu spéciale dans ce genre, avec justement ses influences assez diverses. Et du coup d'ailleurs, si vous voulez voir outre la chanson qu'on va passer qui en est déjà un bon exemple, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe ce matinage de soul, de punk et tout, écoutez la reprise, l'une des meilleures reprises de tous les temps, quoi. La reprise des Saints du classique de Ike and Tina Turner, River Deep Mountain High, donc River Deep Mountain High façon punk. C'est vraiment absolument génial, mais pour l'instant on s'écoute. J'arrête pas de faire des lapsus étranges. On s'écoute Know Your Product, donc le premier morceau du deuxième album des Saints, Eternally Yours, en 78. Try it, you feel alright. Got some green, new brown and smokes, kill your head. Voilà, c'était donc les Saints avec Know Your Product, extrait de leur album Eternal Year, sorti en 1978, qui est le thème du jour pour le petit bazar. Nico, à toi.
Waouh, c'était un bel
enchaînement. Ouais, je t'ai lancé sèchement parce que t'as traché mon son.
Ouais, mais c'était hors antenne.
Et alors, ça m'a quand même blessé.
Et on a voyagé là grâce à toutes nos contributions en Colombie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et au Brésil. Et justement, on va y aller maintenant en fait. Je me suis auto-spoilé. On a fait Colombie, Royaume-Uni, Allemagne, Australie. Et donc là, on va au Brésil. Voilà, on retourne un peu en Amérique latine puisque aujourd'hui, non seulement on vous fait voyager dans le temps en 1978 puisque c'est le thème d'aujourd'hui, mais aussi dans l'espace puisque on va aller un peu sur presque tous les continents et beaucoup de pays différents. Et je vais vous passer donc une grande star de la musique brésilienne. C'est Jorge Ben Jor qui est né en 1945 à Rio, qui a fait des tubes quoi, littéralement, plusieurs que vous connaissez peut-être, alors peut-être plus en les écoutant que si je vous dis le titre, mais donc il y a eu Taj Mahal en 1969, País Tropical en 72 et aussi Filho Maravilha en 1972, et peut-être le plus connu à l'heure actuelle, notamment parce qu'il a été énormément repris par les Black Eyed Peas entre autres, Mais Que Nada de 1963, qui est aujourd'hui que n'importe qui connaît parce que ça a été repris énormément partout quoi, par plein de chanteurs différents, etc. Et donc au Brésil, de 1964 à 1985, c'est la dictature. Du coup, 1978, c'est pas nécessairement l'année la plus prolifique en termes musical, mais cette année-là, Jorge Ben Jor sort quand même un album qui s'appelle A Banda do Zé Pretinho, qu'on pourrait traduire par la bande de Zé le Noir, quoi. Et donc dans cet album, il y a une chanson qui me plaît beaucoup, qui est assez légère hein, au final, dictature oblige, on va pas s'aventurer sur des thèmes très politiques ou des thèmes très trop controversés, mais cette chanson s'appelle donc Bérénice, vous allez le comprendre très vite parce que le refrain est beaucoup répété. Et c'est une chanson un peu sur un homme qui est amoureux de cette Bérénice. Et puis on vous reparlera des paroles tout à l'heure. Maxime, si tu peux la lancer, et puis on se retrouve tout à l'heure.
Berenice, que seu corpo de miss e sua amiguice me fariam fazer alguma tolice. Bere, bere, Berenice. Bere, 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 Berenice. Bere, 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 Berenice. Pois quando eu disse para Doralice que estava afim de você, Berenice, ela me disse que eu não insistisse, pois você estava amarrada num tal de Tom Mix. Bere, 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 Berenice. Bere, bere, bere. Então eu fui falar com esse tal de Tom Mix, pedindo que ele desistisse e da sua vida saísse. Me desculpe eu estar aqui agora todo amarrotado e sujo de piche, mas aqui esse malandro não brinca em serviço. Bere, 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 Berenice. Bere, 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 Berenice. Eu bem que te disse, Berenice, que se me fariam fazer alguma tolice. Bere, bere, Berenice. Bere, 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 Berenice. Bere, 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 Berenice. Pois quando disse para Doralice que estava afim de você, Berenice, ela me disse que eu não insistisse, pois você estava amarrada num tal de Tom Mix. Ah, bele. Bere, 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 Berenice. Bere, 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 Berenice. Então eu fui falar esse tal de Tom Mix, pedindo que ele desistisse e da sua vida saísse. Me desculpe eu estar aqui agora todo amarrotado e sujo de piche, mas aqui esse malandro não brinca em serviço. Bere, 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 Berenice. Bere, 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 Berenice. Oh, bere. Oh, Berenice.
Et donc, elle s'appelait comment cette chanson?
Si vous aviez, voilà, si vous aviez un doute, c'était Bérénice de Georges et Benjor, et vous êtes toujours dans la 78e émission du Petit Bazar sur Radio Canus 102.2. Et donc dans cette chanson, bah, comme je vous le disais, c'est Georges et Benjor qui chante son amour pour une certaine Bérénice. Et donc il a une amie qui s'appelle Doralice, faut quand même le faire, c'est pas Alice, c'est Doralice, qui lui dit qu'il devrait plutôt laisser tomber parce que Bérénice serait attachée à un certain Tom Mix. Et j'ai découvert j'ai découvert que Tom Mix est quand même un vrai acteur et réalisateur américain qui a vécu de 1880 à 1940 et qui était acteur dans des westerns. Alors je sais pas s'il lui fait vraiment référence ou si c'est juste pour la rime qu'il a inventé un nom et qu'il se trouve que le nom existait. Mais je trouvais ça marrant. Et donc la suite de la chanson, il raconte qu'il va parler à ce Tom Mix pour essayer de le convaincre de laisser Bérénice et de sortir de la vie de cette de Bérénice dont il est amoureux. Et apparemment ils se battent. Et du coup, à la fin de la chanson, il s'excuse devant Bérénice d'être dans un sale état, mais c'est parce qu'il est allé se battre avec Tom Mix pour libérer Bérénice.
C'est vraiment genre le synopsis du nouveau Astérix.
Je suis pas sûr qu'Astérix se batte pour une nana quand même. Il a l'air un peu asexué.
Ah, c'est une théorie intéressante. Voilà. Si vous voulez réfléchir.
Et donc sur... après avoir voyagé, donc je disais Colombie, Royaume-Uni, Allemagne, Australie et Brésil, et ben Max va nous emmener aux États-Unis.
Ouais, donc on va passer à un artiste qu'on a déjà diffusé une seule fois, mais c'était un pic de Devil Joe and the Backdoor Men. C'était pas moi qui l'avais choisi, parce qu'aujourd'hui j'ai fait en sorte de ne passer que des artistes que je n'avais jamais diffusés dans l'émission. Donc James Brown, le grand, qui sort en 78 deux albums studio. On va écouter un extrait du premier des deux albums qui sort. Donc l'album s'appelle Jam 1980s, même si on est bien en 78, et le suivant s'appelle Take a Look at Those Cakes. On est dans une période où James Brown est déjà évidemment très célèbre, mais où tout le monde... Non mais je t'explique après. Tout le monde considère que ses grandes années musicales sont derrière lui. Il est un peu ringardisé, il essaie de rester hip, de rester dans le coup, et il lutte un petit peu. Ce sont 49e album studio quand même, hein, Jam 1980.
Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait en 78 quand on veut essayer de rester hip?
Alors non, justement.
Ah bon, d'accord, ça va. C'était pas encore son époque disco.
La disco a
quoi.
Envahi le monde et tout ça, et même s'il a été un des grands précurseurs de la disco dès le début des années 70, il n'y a jamais vraiment cédé musicalement à cette époque-là, et donc 78 est l'année charnière pour ça, puisque le premier album, donc celui dont on va écouter un extrait, est encore un album de funk à l'ancienne, juste cuivre, guitare, basse, batterie et une ambiance de jam torride et super sexuelle. Alors que le suivant, Take a Look at Those Cakes, est un album où la disco commence déjà à prendre une place un peu plus prépondérante. Pour info, Take a Look at Those Cakes, c'est-à-dire Matze Boule, hein, grosso modo.
Ah, donc le cake en anglais.
Voilà, la pochette
des États-Unis,
du disque, en fait,
boule.
C'est genre un comics avec deux paires de fesses dans la rue, dans un petit jean moulant, machin. Et la chanson titre, c'est une jam de 11 minutes où il imagine que Ray Charles et Stevie Wonder sont dans la rue et matent le cul des filles. Donc ça vole pas très haut.
Ce qui est marrant, parce que James Brown n'a jamais eu une réputation de tombeur pourtant.
Voilà, alors justement.
Il y a que moi que ça fait bugger Ray Charles qui mate.
Bah justement, c'est la blague de la chanson, ouais, ce qui est pas très élégante. Mais en 78, il commence déjà à aborder la phase descendante de sa carrière où il multiplie les affaires de drogue, de détournement d'argent ou puis plus tard de viol. Hein.
Ouais, voilà,
il a quand même une fin de carrière assez.
Donc t'es en train de nous dire que tu vas nous passer une chanson machiste et qui vante le viol ou...
Non, en fait, on va se prendre ce qu'on appelle une fessée. La chanson s'appelle The Spank, okay. Donc, la fessée, mais il faut l'entendre dans trois sens différents, au sens propre, au sens figuré et un autre sens figuré. Donc évidemment, il y a le sens sexuel, puisque 99% de la musique de James Brown parle de cul et a toujours parlé de cul.
Au sens propre.
Le sens figuré, c'est que The Spank, c'est la fessée musicale qui va nous mettre, puisque c'est un morceau de funk absolument dingue. Et là, le sens numéro 3, c'est qu'à l'époque, en fait, The Spank, c'est le nom d'une danse super à la mode dans le nord des États-Unis. Donc voilà, il a voulu rester dans le coup en enregistrant ce single-là, qui n'est pas rentré dans les charts. Le seul single qui entrera dans les charts à cette époque-là est en 79 sur l'album The Original Disco Man.
Ah bah voilà.
Et
on parle.
En fait, ce sera son entrée réussie dans la grosse disco qui tâche, mais l'album est assez cool. Donc on va s'écouter la version single, donc la version courte de The Spank.
de James Brown, sorti en 78 sur l'album Jam 1980. Voilà, donc c'était James Brown avec The Spank. Donc on a une version courte, hein. Il y a deux versions de l'album qui existent apparemment. Il y a la version que vous trouverez en ligne en écoute intégrale avec une version de 7 minutes de cette chanson. Et la version que j'ai trouvée en téléchargement où il y a genre deux versions courtes de cette chanson et une version plus longue de la dernière. J'ai pas trop compris, j'ai essayé de me renseigner mais j'ai pas vu officiellement deux versions, donc c'était un peu bizarre. Mais ça en tout cas c'est la version qui est sortie bien en 45 tours. Version éditée, normalement le morceau est beaucoup plus long.
Et c'est vrai que c'est pas forcément marqué 78, que du coup c'est vraiment du funk.
Mais voilà, c'est du funk vraiment machin. Mais c'est une période qui est vraiment détestée dans la carrière de James Brown. Ouais, ouais. Si tu lis les critiques musicaux et tout, pour eux c'est le pire de sa carrière, il n'y a rien de marquant et tout, alors que non, c'est des super albums de funk qui virent tous un peu au côté un peu genre, vu que les morceaux s'étirent super longuement, ça fait des espèces de jam et de trance un peu comme ça.
Après c'est vrai que c'est peut-être
très live en fait.
C'est donc peut-être pas original par rapport au reste de ce qu'il a fait, mais en tout cas c'est agréable à écouter.
Après
quoi.
Bon c'est vrai quand quand tu fais 50 albums, bon bah au bout d'un moment
ouais,
on peut pas attendre que tu renouvelles les musiques.
Oui voilà, c'était l'album numéro 49 sur 71 albums studio dans sa carrière. Sauf que 71 c'est que les albums studio, il y a en plus une quarantaine de lives, des compilations, des photos. C'est un des mecs à la discographie la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Et d'ailleurs, en 78, il a fait un concert où il a fait monter sur scène Michael Jackson et Prince, qui commençaient leur carrière respective en solo. Et c'était un peu le passage de témoin officiel entre le dieu du funk et ses héritiers. Et des deux, bah, y a Prince qui a un peu suivi son chemin en termes de discographie comme ça, tentaculaire, avec des dizaines et des dizaines d'albums, à plus savoir qu'en foutre. C'est un peu... C'est un peu un héritier spirituel.
Vocabulaire, Maxime.
Donc voilà.
Ouais.
On passe aux Cars.
Allez, les Cars, c'est parti.
Les tutures.
Les tutures, voilà. Alors, les Cars, personnellement, c'est un peu mon. Je pense, si je devais choisir un 10 pour 78, et pourtant, il y en avait vraiment pas mal. Hein, dont d'ailleurs certains qu'on vous passera pas aujourd'hui, mais je sais pas, il y a Blondie,
Funkadelic,
enfin des trucs trop cool, hormis ceux qu'on va vous passer aujourd'hui, qui sont déjà pas mal. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et donc, du coup, bah, les Cars, en revanche, moi, c'est vraiment, je pense, mon choix pour l'album de 78. C'est un disque, en fait, qui se place. C'est un groupe assez important parce qu'il se place un petit peu à la jonction entre la musique du début des années 70, le rock du début des années 70, qui était vraiment qui laissait la part belle à la guitare, et en fait la direction que prendra ensuite la pop et le rock fin des années 70 et surtout des années 80, qui sera plus orientée musique synthétique avec beaucoup plus de claviers. Et donc du coup c'est un groupe qui se pose un petit peu à la jonction entre on va dire ces deux mouvements. Donc c'est le premier album des Cars, c'est un album éponyme, The Cars, celui qu'on va passer, qui sort en 78. Et c'est au fait, pour moi, c'est un enchaînement de tubes, vraiment tous les morceaux sont absolument imparables. Et le plus énorme de ces tubes pour moi, c'est le troisième morceau du disque, qui s'appelle Just What I Needed, qui est probablement je pense le plus célèbre morceau des Cars. Et voilà, et bon, on va pas trop ergoter sur ce morceau puisqu'il y a déjà tout ce qu'il faut dedans. Vous allez voir, il y a un riff accrocheur, une batterie métronomique, le swag du chanteur Rico Kasek qui a vraiment une espèce de faconde comme ça absolument génial. Et puis voilà, ces petits synthés juste ce qu'il faut de kitsch, assez délicieux. Donc c'est parti, c'est les Cars avec Just What I Needed. Et j'en profite aussi pour faire une petite dédicace à Marion et Laure Hélène, les plus rock'n'roll des agrégatives. Allez, bisous.
I don't mind you coming here, wasting all my time, 'cause when you're standing oh so near, I kinda lose my mind. It's not the perfume that you wear, it's not the ribbons in your hair. I don't mind you hanging out.
The Cars, les voitures, avec Just What I Needed, extrait de leur premier album The Cars, donc sorti en 1978. Vous êtes toujours sur 102.2 Radio Canus, c'est la 78e du Petit Bazar. Et Max, maintenant, va nous proposer un petit son, ma foi, qu'il a mijoté. Bref, je te laisse la parole.
Quel est ce soupçon de cynisme que je sens dans ta voix?
Non, je suis tout à fait curieux.
Écoute, je me suis dit... Prenons le contrepoint du punk, parce que, ok, 77-78, punk, post-punk, début de la new wave, tous ces genres-là, machin, c'est cool, mais il n'y avait pas que ça. En 78, quasiment tous les grands groupes de rock progressif des années 70 ont sorti un disque, et quasiment tous ces albums étaient catastrophiques. Notamment un album d'Emerson, Lake & Palmer, qui a une pochette, mais d'une laideur. Mais un truc, genre, ils sont en Bermuda à fleurs, sur une plage au coucher de soleil. Enfin, un truc, mais juste pas possible. Et au milieu de tous ces groupes dinosaures que vomissait la vague punk, littéralement, un groupe canadien qui, en France, est vraiment très sous-estimé et pas très connu, mais qui, aux États-Unis, est un des plus gros groupes de rock tout court. Il s'agit de Rush, qu'on n'a jamais diffusé ici. Non mais Rush c'est vachement bien, enfin, genre t'as juste pas trop écouté ça dans ta vie.
Ouais,
mais...
non, j'assume ma mauvaise foi.
Mais ta vie n'est rien sans Rush, Julien.
Ah bon? Ah mince alors, qu'est-ce que je fais?
Et donc en 78, Rush sort leur sixième album studio. L'album s'appelle Hemispheres, ou Hemispheres en anglais, mais Hemisphère. C'est le dernier album vraiment qui a une forme de rock progressif ambitieux, avec des suites musicales de 20 minutes et un instrumental d'un quart d'heure à la fin de l'album. Après celui-là, ils iront faire deux disques, notamment, alors j'ai plus le nom, je suis juste après, mais celui qui est vraiment connu, c'est Moving Pictures en 80-81, avec Tom Sawyer et tous leurs gros tubes, où
Tom
ils font
Sawyer.
Plus vraiment énormément de rock progressif, mais plus un rock un peu FM. C'est pas la même version.
Oh.
Et du coup, voilà, sur Hemisphere, ils font encore voilà un rock progressif matinée de hard rock caractéristique du groupe. Signature vocale inimitable, on croirait que Led Zeppelin s'est mis à faire du prog un petit peu, genre le chanteur a une voix vraiment particulière, et surtout c'est un power trio, ils sont trois, le chanteur, bassiste, guitariste et batteur, sachant qu'ils jouent tous plus ou moins des claviers aussi sur l'album. Et j'ai décidé de passer le premier single, donc un morceau de moins de 5 minutes pour du prog, c'est pas évident, mais ils le font et ils l'ont fait régulièrement. La chanson s'appelle...
Il va donc y avoir que 7 changements de rythme pendant la chanson.
La chanson s'appelle The Trees, et c'est une espèce de fable un peu socialiste qui raconte la lutte dans une forêt entre l'érable et le chêne.
Donc on n'est pas si loin du punk finalement.
Et je trouve cette chanson super mignonne, donc voilà, on va s'écouter tout de suite Rush avec The Trees.
There is unrest in the forest, there is trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Mm-hmm.
c'est pastoral.
Il dit ça parce qu'il y a des petits oiseaux déclochés à la fin du morceau.
Voilà. Non, je crois qu'il dit juste ça parce qu'il sait que ça me fait marrer chaque fois qu'il dit pastoral.
D'une pierre deux coups.
Et donc voilà, c'était Rush avec The Trees, issu de l'album Hemispheres, sorti en 78. Donc vous avez entendu la voix si particulière de Jeddy Lee, bassiste, chanteur du groupe.
C'est un mot comme un autre.
Et à savoir que toutes les paroles sont composées par le batteur, donc il ne chante pas. Neil Peart, qui est considéré comme un des meilleurs batteurs de l'histoire du rock, parce que c'est genre un batteur de ouf. Mais vraiment, ouais, genre, c'est des gros musiciens de ouf.
Ouais, généralement, les rock prog, on peut pas leur reprocher trop de pas savoir toucher leurs instruments, contrairement aux punks. C'est pour ça que les punks les détestent, en fait. Parce que c'est des mecs qui savent jouer leurs instruments, ce qui est vraiment pas drôle, quoi. Enfin...
Et du coup, voilà, c'est un morceau sur lequel on peut commencer à sentir l'évolution vers un son beaucoup plus catchy et beaucoup plus radio-friendly que les longs morceaux de 20 minutes.
T'as encore un autre mot anglais à sortir ou pas?
Mais je parle en anglais si je veux.
C'est vrai. Voilà. C'est vrai.
Bitch.
Ah, encore.
Jamais 203, il paraît.
Bon.
Ouais, c'est pas à moi l'enchaîner.
Ah oui, c'est vrai, c'est à moi.
C'est les tonnerres.
Excusez-moi. Oui, alors on va rebasculer sur du punk. Enfin non, c'est pas vraiment du punk, c'est plus du rock traditionnel.
C'est du punk progressif.
Ce serait rigolo, ça, tiens.
Post-apocalyptique,
ça existe. J'écouterais bien ça. Oui, alors en fait, le morceau qu'on va passer, c'est plus du rock que du punk, mais on va passer en fait une figure mythique du punk new-yorkais. C'est Johnny Saunders. Alors Johnny Saunders, en fait, il est très connu notamment parce qu'en fait, il appartenait au mythique, au géniaux New York Dolls, dont il a fait partie jusqu'en 1975.
Je connais pas.
C'est un super groupe de punk new-yorkais qui a fait notamment les deux premiers albums. Enfin, c'est les deux seuls d'ailleurs auxquels a participé Johnny Thunders. Ce sont des gros classiques. C'est vraiment absolument génial. Okay. Et ensuite, il a continué donc à partir de 75 une carrière alors plus ou moins en solo puisqu'il a d'abord fondé les non moins excellents et aussi très influents Heartbreakers, avec lesquels il a publié un album en 77 qui s'appelait LAMF, avant de splitter en fait. Ensuite, il a parfois garder le patronyme des Heartbreakers pour sa carrière solo, mais en fait après 77 c'était plus lui tout seul avec une flopée de musiciens qui changeaient assez régulièrement. Et en 78, donc un an après le premier album des Heartbreakers, il sort techniquement son premier album solo qui s'appelle So Alone. Et en fait ça conserve sa traditionnelle mixture qui était déjà celle aussi des New York Dolls entre un peu glam rock et punk, c'est bien ça ce que je voulais dire, mais avec cette fois en fait des textes beaucoup plus personnels et très mélancoliques qui abordent notamment par exemple son addiction à l'héroïne, comme c'est le cas sur son plus gros tube probablement, enfin c'est l'une des chansons les plus connues de Johnny Saunders, voire certainement la plus reprise, la plus canonique, c'est celle qui s'appelle You Can't Put Your Arms Around a Memory. Tu peux pas mettre tes bras autour d'un souvenir, embrasser un souvenir. Donc voilà, c'est une très très belle chanson, assez touchante, qui révèle une part très sensible et très vulnérable de Johnny Saunders. Et donc c'est devenu un classique du rock américain, tout simplement. Donc c'est 78, Johnny Saunders, ex New York Dolls, avec You Can't Put Your Arms Around the Memory, extrait de So Alone.
Doesn't pay to try. All the smart boys know why. It doesn't mean I didn't try. I just never know why. Against the pole.
Oui, c'était donc Johnny Sanders avec You Can't Put Your Arms Around the Memory, extrait de son premier album solo en 78, So Alone. Vous êtes toujours dans le Petit Bazar, 102 points de Radio Canu, c'est la 78e de l'émission, et c'est donc une émission spéciale 1978, avec Max qui va nous parler d'un groupe emblématique de cette époque.
Et je vous emmène au CBGB, puisqu'en 78, les Talking Heads de David Byrne sortent donc leur
CBD quoi,
CBGB, la salle de concert mythique de la scène punk new-yorkaise.
Ouais, bah tout le monde ne sait pas, tu sais.
Donc on n'a pas passé de Blondie aujourd'hui, alors que Blondie a sorti deux albums en 78, dont l'excellent Parallel Lines. Mais on fait quand même un petit clin d'œil à la scène. Enfin, on vient d'en faire avec Johnny Sanders.
Ouais, quand même.
On continue sur cette lancée de clin d'œil à la série punk, à la série, à la scène punk new-yorkaise. Balbutiante ou déjà qui se diversifiait grandement en 78, puisque les Talking Heads sont un groupe vraiment à part dans cet univers musical. Leur premier album Talking Heads 77 est sorti l'année précédente, et en 78 donc ils reviennent avec Brian Eno aux commandes pour la production du disque, sur un album qui s'appelle More Songs About Buildings and Food, donc un peu plus de chansons à propos des immeubles et de la nourriture. Un titre assez célèbre et un peu absurde, qui a été repris d'ailleurs par un groupe qui fait des albums concept autour du hockey, et ils ont fait un album qui s'appelle More Songs About Hockey and Buildings and Food. Je trouve ce nom
d'accord.
merveilleux. Et donc voilà, sur ce deuxième album de la bande à David Byrne, on retrouve un métissage entre entre musique un peu primitive, d'où le côté punk, hein, c'est un peu l'anarchie dans les structures des morceaux et dans la quantité d'informations qui est balancée, avec des influences funk, des influences reggae, des influences cubaines, il y a un peu de tout. L'album a été enregistré à Nassau, et donc on va s'écouter tout de suite.
C'est probablement le disque le plus vraiment rythmé, en fait, le premier au dernier morceau, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de mid-tempo ou quoi, à part
le plus rythmé de ce groupe, tu veux dire.
Ouais, des Talking Heads. Enfin, bon, ils en ont fait plein d'autres, hein, mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment péchu, quoi.
C'est un disque un peu inclassable, un groupe un peu inclassable, et du coup, on va s'écouter tout de suite Artist Only, la première chanson de la deuxième phase de ce disque assez mythique.
Thank you.
Et voilà, c'était donc les Talking Heads de David Byrne avec Artist Only sur leur album de 78.
J'aime bien ton accent.
More Songs About Buildings and Food.
C'est beau. Et bah, comme je le disais tout à l'heure, on vous fait voyager dans le temps puisque le thème d'aujourd'hui c'est 1978, dans la 78e émission du Petit Bazar. Et aussi dans l'espace, hein. On est allé donc en Colombie, au Brésil, en Allemagne, en Australie,
ça
au Royaume-Uni.
Que ça, quand on va voyager dans l'espace, quoi, je sais pas.
Oui, non, mais pas dans l'espace, en dehors de la Terre.
C'est un peu décevant, quoi.
Bah, fais là quand même.
Non, mais bien sûr, en vrai.
Et donc là, on va un peu en Afrique parce que c'est vrai que bah c'est cool aussi. Même si on mais connaît sûr, pas oui. assez bien la musique africaine, je pense tous les trois. Mais Fela,
Fela, toi, t'en as déjà passé, non?
Ouais, oh oui, c'est pas la première fois que j'en passe. Et donc Fela Kuti, pour moi, l'un des meilleurs dans la musique africaine, mais aussi parce que je connais mal cette musique, hein, je le confesse. Et donc, bah, Nigeria. 1978, il l'a enregistré en 1977, donc c'était juste deux sons. Il y avait No Agreement, celle qu'on va vous passer maintenant, et Dog Eat Dog. Donc No Agreement, pas d'accord, et Dog Eat Dog, les chiens mangent les chiens, quoi, on pourrait traduire ça comme ça. Et bah, comme la plupart des chansons de Fela, donc en afrobeat en général, c'est surtout instrumental, avec quelques courts passages parlés vers la fin, où il dit juste qu'il n'est pas d'accord pour laisser ses frères, enfin son frère, affamé, mais c'est un frère, je pense, général pour parler de l'humanité, quoi, pour laisser son frère affamé, sans domicile, et il sera jamais d'accord pour laisser ça arriver, ni maintenant, ni jamais. Donc, bah voilà, une belle chanson un peu de solidarité et un peu sociale, quoi. Et normalement, la chanson originale fait 15 minutes, mais elle a été divisée en deux parties. Je sais pas qui a fait la division, je pense pas que ce soit fait là lui-même, mais il y a beaucoup de ces sons comme ça qui ensuite ont vu que c'est des sons qui sont relativement longs. Parfois même une demi-heure, quoi, et donc souvent c'est les gens les sous-divisent en deux parties. Et donc là, je vais vous passer la partie 2 qui dure à peu près 8 minutes. C'est No Agreement, c'est Fela Kuti, et on est en 1978. Thank you. Voilà, mea culpa, dans cette version un peu plus courte de la chanson, on n'entend pas Fela chanter, mais dans la version longue, donc il dit ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'était Fela Kuti avec No Agreement, dans le thème 1978, de la 78e du Petit Bazar, aujourd'hui sur Radio Canu. Et puis Max, pardon, Julien, bon, Julien. Va conclure cette émission.
Ouais, on conclut. Alors, pas de local aujourd'hui parce qu'on a déjà suffisamment suffisamment dépassé. Oui, alors, c'est dommage qu'on n'ait pas fait l'émission spéciale 1977 la semaine dernière parce que je vous aurais avec plaisir passé le premier album des Clash. Donc, du coup, tant pis, mais je vais quand même vous parler des Clash malgré tout. Parce que bon, en 78, ils ont aussi sorti deuxième album. Bah, parce que bon, je pense qu'il ne faut pas en dire plus. C'est toujours une bonne excuse de parler des Clash.
Tu pourrais dire parce qu'ils sont bons.
C'est vrai qu'ils sont bons. Bref. Et donc, en 78, les Clash sortent leur deuxième album après donc l'espèce de phénomène qu'a créé leur premier album sorti en 77. En 78, ils sortent donc Give Em Enough Rope, leur deuxième album qui sonne un peu plus américain, qui est un peu moins réussi, mais bon, je veux dire, c'est probablement d'ailleurs le avec le tout dernier qui était un échec total, le moins bon album des Clash. Mais bon, dans le moins bon album des Clash, il y a quand même Safe European Home, Tommy Gunn, English Civil War, Stay Free, des trucs comme ça, donc ça va. Mais en fait, j'ai décidé de pas vous passer un extrait de cet album là, mais plutôt une face B. Et alors, c'est vraiment la section face B de l'émission, mais poussée à son paroxysme, puisque c'est une vraie face B, voilà, un 45 tours que nous montre Max
avec une pochette
qui s'inspire de Animal Farm. Voilà. Et donc en fait, c'est ce 45 tours, c'était celui du single English Civil War, un des extraits du second album des Clash. Et sur ce 45 tours, on trouve sur la face B de ce single une reprise du classique reggae de Toots and the Maytals, Pressure Drop. Alors en fait, les Clash, si vous n'êtes pas trop familier avec leur univers, sachez que c'est quand même l'un des premiers groupes qui a su comme ça, avec succès, mélanger punk et influence reggae, puisque Joe Strummer adorait le reggae.
D'ailleurs, Toots and the Maytals, c'est 54-46, that's my number,
ouais.
Non, leur gros tube.
Ouais, ils ont quelques tubes énormes. Alors, pour moi, Pressure Drop, tu vois, c'est leur plus gros tube, quoi. Mais bon, c'est quand même un groupe assez mythique du. C'est très perturbant ce que tu fais. Un groupe donc assez mythique du reggae et du ska aussi. Et donc. En fait, la fin des années 70 au Royaume-Uni, c'était aussi un revival ska qu'on a appelé le Two-Tone Revival. Le Two-Tone Revival, c'était un mouvement qui a été en fait créé plus ou moins par un groupe assez mythique qui était les Specials, qui étaient des grands amis des Clash. Et ça surprendra d'ailleurs personne de savoir que les Specials ont aussi fait leur propre version de Pressure Drop. Mais nous, on va s'écouter celle des Clash. Donc voilà, pile à ce moment du Two-Tone Revival ska qui intervenait à la fin des années 70 au Royaume-Uni. C'est la reprise donc des Clash de Pressure Drop de Toots and the Maytals. C'était sur le single English Civil War, et on va donc se quitter avec ça. On reprend l'antenne après ou pas? On dit au revoir maintenant.
Je pense qu'on se quitte sur ça.
Et bah allez, on se quitte avec Pressure Drop.
Dire que vous pouvez réécouter cette émission et toutes les émissions précédentes sur blogs.radiocanu.org/lepetitbazar, tout attaché. Et vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail à lepetitbazar@hotmail.com. Et puis on vous dit à la semaine prochaine.
Bah oui, à la semaine prochaine.
Et puis un petit big up à la discothèque Auberge du Garon, bar hôtel 69500.
J'ai jamais réussi à me débarrasser de l'étiquette sur le 45
tours. Qui est tamponné en plein milieu du 45 tours, et voilà. Ça me fait mourir de rire.
C'est un objet de collection.
Et donc après, ce sera les bandes continues, mais la semaine prochaine, il y aura une émission après nous, apparemment, à partir de 14h.
Voilà. Donc c'est la dernière fois qu'on fait une émission d'une heure et demie.